Eh bien, je vais prendre la suite de Marc et dans la continuité, développer et illustrer un certain nombre de choses qu'il a posées, dont il a posé le cadre. Effectivement, pour qu'il existe la volonté de vivre ensemble et de vivre ensemble dans la paix, il est impératif que des droits fondamentaux soient respectés. Et ces droits, c'est les libertés, liberté de conscience, de pensée, d'expression, l'égalité des citoyens devant la loi, la non-discrimination pour quelque raison que ce soit. Ce sont des droits fondamentaux que la laïcité française de séparation des religions et du politique vise à installer et à faire vivre. Est-ce que vous m'entendez bien là? Parce que je ne me rends pas compte. Bon, très bien. Alors, ces droits fondamentaux sont évidemment affirmés par un certain nombre de textes, hein, que ce soit la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU de 48, la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales du Conseil de l'Europe, ou la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui est devenue contraignante par le traité de Lisbonne en 2008. Ça veut dire que les États européens se sont vraiment dotés de textes communs qui encadrent étroitement nos lois nationales, puisqu'elles n'ont pas le droit, nous n'avons pas le droit de faire des lois qui seraient moins intéressantes, moins respectueuses des droits de l'homme que ces différents textes que nous avons tous ratifiés. Et que des cours de justice, la Cour européenne de Strasbourg et la Cour de justice européenne sont là pour garantir. La laïcité contribue fortement au respect de ces droits fondamentaux, puisqu'elle institue, par la séparation du politique et du religieux, la suprématie de l'état de droit dans l'organisation de la société. Ce qui veut dire clairement qu'aucun dogme ne peut imposer une contrainte qui serait au-dessus des lois. Et aucun dogme ne peut légitimer une quelconque limitation de liberté, une quelconque inégalité ou une quelconque discrimination. Et là, évidemment, on va arriver très vite aux droits des femmes, puisque c'est là-dessus que les principaux mouvements intégristes se battent. Chaque fois qu'un mouvement intégriste cherche à prendre le pouvoir quelque part, ça commence par la limitation des libertés des femmes et de leur égalité. Alors, comme Marc l'a dit très justement, cette laïcité... je voudrais donner une illustration, un exemple d'illustration déjà de la séparation. Aujourd'hui, des religieux peuvent avoir envie de s'exprimer sur le débat public, sur des questions de société. Ce qu'ils ont parfaitement le droit de faire en tant que citoyens, ce sont également des citoyens. Ils peuvent également le faire en tant que représentants d'un courant de pensée. Là où ça ne fonctionnerait plus, c'est s'ils décidaient de le faire au nom d'un groupe d'individus. Par exemple, un évêque ne peut pas dire qu'il s'exprime au nom des catholiques de France. Ça, c'est complètement impossible. Ce n'est pas vrai. D'abord, il n'est pas élu pour ça. Et un certain nombre de catholiques ne souhaitent pas qu'il s'exprime en leur nom. Ils préfèrent que ce soit leur député, par exemple. Une fois la loi votée, il est important que tous ceux qui étaient en désaccord avec cette loi la respectent, même s'ils sont en désaccord avec cette loi. Mais par exemple, on voit des mouvements intégristes qui cherchent à compromettre l'exécution des lois. Je vous donnerai un exemple. Par exemple, des groupes intégristes catholiques qui, régulièrement devant l'hôpital Tenon à Paris, tentent d'empêcher le bon déroulement des interruptions volontaires de grossesse. Ça, c'est parfaitement illégal et antidémocratique. Alors, d'autres exemples d'attaques contre ces droits fondamentaux. Je dirais que les attaques contre les libertés des femmes sont toujours des signes avant-coureurs de ce que un mouvement intégriste, quel qu'il soit, cherche à s'imposer dans l'organisation des sociétés. J'ai volontairement pris pour cela des exemples qui concernent les grandes religions monothéistes afin de montrer la similitude des démarches. Quel que soit le dogme qui est instrumentalisé pour l'occasion, puisque c'est une instrumentalisation bien sûr. Alors on va voyager un petit peu. On va commencer par la Hongrie. La Hongrie, où le parti populiste de Viktor Orban, le Fidesz, a imposé ce qui a été appelé une démocrature, c'est-à-dire une démocratie qui verrouille les contre-pouvoirs démocratiques. Toute ressemblance avec ce que nous avons connu dans les 5 dernières années ne serait pas fortuite. Alors selon la formule imagée et employée récemment par l'ancien ministre Gordon, alors Bajnai, je suis désolée, je ne suis pas sûre de bien prononcer son nom, ça s'écrit Bajnai. Ils ont brisé méthodiquement, vertèbre par vertèbre, l'échine de la démocratie hongroise. Viktor Orban, d'ailleurs, installe progressivement une morale judéo-chrétienne fondamentaliste. Le gouvernement a même reconnu environ une quinzaine de nouvelles religions qu'il subventionne. Quand on connaît les problèmes économiques des États aujourd'hui, c'est intéressant, dont un grand nombre de mouvements fondamentalistes. En décembre 2011, le budget 2012 présenté par le nouveau gouvernement avait annulé toute subvention destinée aux interruptions volontaires de grossesse. Alors les associations laïques européennes se sont mobilisées, elles ont envoyé une foultitude de courriers adressés directement au Premier ministre qui a reculé et qui a rétabli cette ligne budgétaire. Mais il ne faut pas se leurrer, ça n'est que reculer pour mieux sauter, c'est-à-dire qu'il y aura d'autres attaques, d'autant que cet événement faisait suite à une campagne de publicité organisée par le gouvernement hongrois avec des fonds détournés des subventions européennes contre les avortements, pour démontrer que les avortements étaient des crimes. En juin 2011, toujours en Hongrie, avait été votée une loi qui facilitait la cession des écoles publiques à des institutions religieuses privées. Donc, par conséquent, très rapidement, un grand nombre de municipalités qui étaient fortement endettées ont trouvé le moyen d'alléger leurs dettes en cédant leurs écoles primaires et secondaires et en l'absence totale de contrôle de cet enseignement et de l'organisation de ces établissements. Donc très rapidement, le nombre des institutions religieuses d'enseignement a augmenté de 25%. Et comme elles ne sont soumises à aucun contrôle, comme je l'ai dit, eh bien elles peuvent licencier des enseignants qui ne partagent pas leurs convictions religieuses. C'est ce qui est fait d'ailleurs, assez couramment. Donc pour travailler dans une école évangéliste, il faut être évangéliste soi-même. Et bien sûr, cela est parfaitement contraire aux lois de l'Union européenne, aux directives de l'Union européenne, puisque toute discrimination à l'embauche est parfaitement interdite. Et évidemment, des parents hongrois ont adressé un certain nombre de pétitions, de protestations au ministre de l'Éducation nationale, qui reste absolument sourd à leur demande d'une éducation idéologiquement neutre. Il y a donc des endroits où on ne peut pas inscrire son enfant ailleurs qu'à l'école religieuse. Il n'y a pas qu'en Hongrie d'ailleurs que ça se produit. On va changer de pays, on va aller un peu plus à l'est encore, en Turquie. Alors là, le gouvernement Erdogan semble avoir donné très récemment un coup d'accélérateur à des réformes qui visent à réhabiliter la religion dans l'espace public et à mettre à mal la laïcité turque, dans un pays où tout de même cette tradition laïque est assez forte depuis 1937. Alors l'âge de l'entrée dans une école coranique a été abaissé de façon à recruter des enfants plus jeunes qui pourront suivre la quasi-totalité de leur scolarité sans avoir fréquenté l'école laïque. L'avortement est représenté comme un meurtre volontaire. Alors dans un étrange rapprochement, Erdogan a déclaré il n'y a pas longtemps à propos d'une bavure de l'armée turque dans un village kurde qui s'appelle Uludere, en disant « Vous parlez sans cesse d'Uludere, mais chaque avortement est un Uludere, c'est-à-dire je vois l'avortement comme un assassinat. » Une proposition de loi, d'ailleurs, vise à ramener de 10 à 4 semaines de grossesse le délai légal pour l'avortement afin d'en diminuer le nombre. Et en réponse, bien sûr, les féministes sont mobilisées. Alors Erdogan s'en est aussi pris aux accouchements par césarienne, parce que je ne sais pas si vous savez, mais quand on procède à des césariennes, ça limite forcément le nombre d'enfants qu'une femme peut avoir. Et il voit dans les accouchements par césarienne un complot visant à effacer la nation turque de la scène mondiale. Donc voilà où nous en sommes. À nouveau, le droit des femmes commence à être menacé. À nouveau, l'émancipation par l'instruction et la pluralité des instructions commence aussi à être menacée. Et je crains qu'en Turquie, il y ait des remous. Voyons maintenant du côté de la Tunisie, où là aussi, très récemment, on a vu des mouvements également très inquiétants, où là, on a plusieurs partis intégristes, islamistes. Et je rappelle là qu'il s'agit bien de partis islamistes et non pas de partis musulmans. Juste un petit rappel, l'islamisme est la volonté politique d'installer un ordre politique basé sur la religion et sur le dogme religieux. Donc c'est bien un mouvement politique avant tout, même s'il instrumentalise la religion pour arriver à ses fins. Donc deux mouvements qui sont en concurrence, Ennahda qui a gagné les élections, avec à l'intérieur des Narda plusieurs courants, ce qui brouille considérablement la compréhension de ce qui se passe. Il y a des plus libéraux, des plutôt plus dogmatiques. Et puis, en face, les salafistes, avec également plusieurs courants. Les salafistes avec probablement des financements d'Arabie Saoudite, qui ont une action extrêmement violente, puisque, je ne prendrai qu'un exemple, hein, il y en a plein d'autres, mais celui-ci est intéressant. Ils ont investi la faculté des lettres, des arts et des humanités de la Manouba à Tunis, en exigeant que le port du niqab soit accepté en salle de cours et pendant les examens, au mépris du règlement intérieur. Ou bien alors en demandant plus de locaux pour la prière, en agressant des enseignantes dont la tenue était jugée indécente, en contestant le contenu de certains enseignements, qui étaient pourtant tous sélectionnés par le comité scientifique de l'université. Alors ça montre en tout cas que le port du niqab est une prescription inventée et instrumentalisée par les salafistes pour faire reculer les droits fondamentaux et en particulier les droits des femmes. Pour ceux qui n'ont vu ou ont déclaré ne voir dans ce vêtement qu'une particularité qu'il faudrait accepter, sont, à mon avis, coupables au moins d'un angélisme extrêmement dangereux. Il s'agit là bien d'une instrumentalisation et d'un coin qu'on essaye de faire entrer dans les démocraties pour installer son pouvoir sur les femmes, isoler des communautés musulmanes du reste de la société, donc combattre le vivre ensemble pour mieux installer le pouvoir politique sur ces gens-là. Donc ces militants salafistes ont procédé par la terreur, en se battant, en frappant des étudiants, en séquestrant le doyen, et malheureusement, ce même doyen n'a pas été soutenu ni par le ministre de l'Intérieur, ni par le ministre de l'Éducation nationale, qui sont tous les deux membres des Narda, et qui n'ont absolument pas assuré la sécurité des étudiants, et qui ont même accusé le doyen d'être responsable de ces désordres. Alors Tahar Benjelloun, dans une tribune parue dans Le Monde en décembre 2011, dénonçait l'expression selon lui vide de sens d'islamisme modéré, disant que l'islamisme au pouvoir n'avait que faire de la modération et que l'islam devait rester dans les mosquées. C'est tout de même une belle déclaration de laïcité. Il rappelait « Je me souviens en 1971 avoir quitté mon poste de professeur de philosophie, le jour où le ministère de l'Intérieur décida d'arabiser cet enseignement dans le but non avoué de limiter l'accès des élèves marocains aux textes jugés subversifs de la philosophie qui s'enseignait à l'époque en français. On a remplacé les textes de Nietzsche, de Freud, de Marx, de Weber et bien d'autres par l'histoire de la pensée islamique, laquelle était enseignée parmi d'autres courants. » Donc on voit la volonté d'enfermement. Alors on va voyager encore un peu. On va revenir plus vers l'est du bassin méditerranéen, en Israël, où les coalitions gouvernementales ne peuvent se faire sans l'appoint des partis religieux. Ça dure depuis des lustres, hein. La loi électorale est ainsi faite. La proportionnelle intégrale fait qu'on est obligé de gouverner avec des coalitions. Alors c'est ainsi que les orthodoxes, les ultra-orthodoxes, arrachent des concessions à tous les gouvernements, qu'ils soient de droite ou de gauche. Alors c'est ainsi que les familles ultra-orthodoxes, où le chef de famille se consacre exclusivement à l'étude de textes religieux, reçoivent une petite subvention de l'État qui leur permet de vivoter plutôt chichement, parce que ce sont souvent des familles nombreuses d'ailleurs, mais ils vivent en marge de la société, tout en pesant sur le budget national. Ils ne participent en rien à l'effort national, envoient leurs enfants dans des yeshivas, c'est-à-dire des écoles religieuses, qui là aussi n'ont pas de contrôle sur les contenus enseignés, et il faut savoir que parfois les fondamentaux de la science, des mathématiques, de l'histoire, ne sont même pas enseignés. Ils ne participent en aucun cas à l'effort de guerre, et parfois ils contestent même la légitimité de l'État d'Israël, qui selon eux aurait dû être donné par Dieu et non pas construit par les hommes. Comme les salafistes en Tunisie, ils exigent des femmes qu'elles se couvrent totalement le corps. Et certains ont agressé récemment une petite fille de 8 ans, Naama Margolis, dans une ville qui s'appelle Beit Shemesh, où il y a énormément de la population est composée de pas mal de gens, de familles pieuses, avec des ultra-orthodoxes, mais des gens qui sont simplement pieux. Et cette jeune Naama Margolis est d'une famille elle-même religieuse. Et on lui a jeté des pierres à cette petite. Donc ça, évidemment, imaginez les mois que ça a pu jeter dans le pays. Et il y a eu pas mal de manifestations là aussi de parents qui se sont révoltés contre la dictature des ultra-orthodoxes qui ressemble en tout point, je dirais, à l'action des salafistes qu'on peut voir ailleurs. Donc les intégrismes religieux, là on en a eu quelques exemples, d'actions directes pour exercer un pouvoir direct sur une société. Maintenant je voudrais parler des lobbies. 4 minutes, je vais en parler rapidement, oui. Les lobbies, c'est ceux qu'on ne voit pas, mais qui sont extrêmement réels. Un exemple récent dans l'Union européenne. Il faut savoir que les lobbies du Vatican en particulier sont particulièrement importants. Il y a un immeuble entier qui est consacré à une organisation qui s'appelle la COMES, qui est la conférence épiscopale de... Je ne sais plus exactement ce que ça veut dire, excusez-moi, j'ai un trou de mémoire, mais qui est financé par le Vatican avec une trentaine de personnes, dont des juristes, qui passent leur temps à écrire des propositions de loi et à intervenir dans le débat public pour influencer les élus, les politiques, les fonctionnaires européens. Alors, un exemple de succès. La Commission européenne a lancé un appel à candidature pour renouveler une partie du groupe d'éthique scientifique qui lui apporte son concours très directement. Cet appel à candidature a été extrêmement discret. Il s'est fait pendant un mois, en janvier 2010, uniquement sur le site de ce groupe d'éthique. Alors, il a échappé évidemment à tout le monde, sauf à ceux qui étaient bien informés, les fameux lobbies. Il faut savoir que dans les compétences demandées, il y avait un certain nombre de compétences dans des disciplines et que la théologie faisait partie des disciplines demandées, des compétences demandées. En revanche, il n'y avait aucune demande de conviction philosophique, d'introduction de gens impliqués dans la défense de la libre pensée, par exemple, ou d'autres convictions, d'autres courants de philosophie qui n'auraient rien de religieux. La conséquence, c'est que sur les 15 membres désignés, 6 sont professeurs de théologie, dont un prêtre et une religieuse, tandis que les 3 autres enseignent dans une université catholique. C'est-à-dire que 60% de ce groupement d'éthique représente le point de vue des institutions religieuses d'Europe. Alors l'Association européenne de la pensée libre, qui s'en est offusquée et qui a écrit à Barroso pour s'en plaindre, rappelle que seuls 52% des Européens interrogés déclarent croire en Dieu et que donc les autres courants d'opinion ne sont pas représentés dans ce groupe d'éthique. Le résultat, c'est que par exemple, dans un document qui est actuellement en négociation, c'est-à-dire le financement par la Commission européenne de la recherche jusqu'à 2020, comporte des limitations très sérieuses sur le financement des recherches sur les cellules souches. Et que là, c'est une posture dogmatique et non pas une posture scientifique qui est adoptée face à cette situation, sachant que les postures scientifiques ne sont évidemment pas différentes, ne tiennent compte également de l'éthique, mais non pas évidemment de dogmes religieux. Donc en conclusion, je vais conclure, défendre la laïcité, c'est pas forcément défendre une organisation comme celle qui est, on l'a dit, plusieurs interlocuteurs l'ont dit et c'est très vrai, l'organisation française correspond à son histoire, à sa culture, et de la même façon que chaque pays a trouvé l'organisation qui lui convient. Ce qui est important, c'est la défense des droits fondamentaux que la laïcité installe. Et ces droits fondamentaux, je les ai listés. Moi, pour moi, il y en a 6. D'abord, éradiquer le délit de blasphème. Si on l'avait vraiment fait en Irlande, aujourd'hui, on n'aurait pas une loi qui a été votée au 1er janvier 2010 et qui a rétabli le délit de blasphème, puni d'une amende de 25 000 euros. Nous avons d'ailleurs aussi le délit de blasphème en Alsace-Moselle. Et toujours en Guyane peut-être aussi, je ne sais pas. Enfin, en tout cas en Alsace-Moselle, ce qui est l'une des choses qu'il serait, à mon avis, urgent d'abroger. Le droit des femmes, on l'a vu avec la volonté de revenir en arrière sur l'IVG, comme en Hongrie ou en Pologne. On le voit aujourd'hui en Tunisie, et on le voit dans pas mal d'autres pays, où il s'agit surtout de renier la liberté et l'égalité qui sont des acquis des mouvements féministes et qui ne sont pas encore installés, qui ne sont pas encore rentrés dans les faits. Nous sommes tout pétris de dogmes religieux. Donc nous n'avons pas fini de nous en affranchir pour établir une véritable égalité. Ça, je crois que j'enfonce une porte ouverte. Troisième élément, la liberté de la recherche. avec la limitation des champs de recherche en fonction des dogmes religieux et non des considérations scientifiques, comme je viens vous le démontrer. Quatrième point, l'euthanasie et la fin de vie, qui sont également des problématiques que l'on doit aborder sous l'aspect de la raison et non pas sous l'aspect du dogme religieux. Cinquième point, l'éducation. Les créationnistes et le dessin intelligent, qui est aujourd'hui enseigné dans certaines écoles religieuses roumaines ou même exposé dans des conférences données dans des écoles anglaises, fait des dégâts. On est là en présence d'un dogme religieux, on a le droit d'avoir cette croyance, mais certainement pas de la faire passer pour un savoir scientifique et de l'enseigner à l'égal d'un savoir scientifique. Le darwinisme est une théorie scientifique. Le créationnisme est une croyance. Il faut quand même savoir que pour obtenir cette distinction en Europe, on a beaucoup ri en Europe quand on a su que ça se présentait aux États-Unis et que la Cour suprême avait dû intervenir pour faire cette distinction elle aussi. Et bien, sauf que ça a failli se produire en Europe. Et qu'au Conseil de l'Europe, c'est grâce à l'acharnement de deux députés, un Français Guy Langagne et une Luxembourgeoise Anne Brasseur, que le Conseil de l'Europe a également établi cette distinction en recommandant de ne pas se tromper dans l'élaboration des programmes scolaires. Sixième droit, égalité et non-discrimination, en particulier les droits des homosexuels, qui sont souvent discriminés et qui se heurtent à des situations où ils ne peuvent pas jouir des mêmes droits que les autres citoyens. On sait très bien que le dogme veut que ce soit pas naturel, voire le résultat d'une maladie. Et bien sûr, ils ne peuvent pas avoir des droits, mais il peut même arriver, malheureusement, qu'on attente à leur liberté ou à leur vie, comme ça a pu être le cas en Égypte. Donc, bien sûr, la laïcité permet le respect de ses droits fondamentaux, mais il faut aussi reconnaître que d'autres organisations de société le permettent aussi. Ce que Jean Bobéro a appelé tout à l'heure des laïcités, ce que je me refuse à appeler des laïcités. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est pas pour dire que les Français sont les seuls à avoir inventé la laïcité, mais je trouve que chaque organisation mérite un nom propre. Donner le même mot, dénommer de la même façon plusieurs concepts, c'est le meilleur moyen d'embrouiller le débat. Donc la laïcité française, c'est clair, c'est la séparation des églises et du politique. D'autres pays ont des religions d'État qui n'ont pas de démarche hégémonique et dans lesquelles la liberté de conscience et l'égalité sont parfaitement respectées. Alors pourquoi pas ? La question, c'est pas qu'ils soient laïcs, c'est que la liberté de conscience et l'égalité soient respectées. Donc s'ils y arrivent avec une autre organisation, tant mieux, mais ce n'est pas une raison pour l'appeler laïcité.